Chapitre 15. Le premier verset de ce chapitre reprend le fil du récit au verset 65 du chapitre 14. Les Romains avaient ôté aux Juifs le droit de prononcer la peine de mort, et seul le représentant de César était habilité à le faire. Les chefs religieux savaient donc qu'il fallait faire comparaître Jésus devant Pilate et réclamer la peine de mort avec des motifs qui lui sembleraient fondés. Le verset 3 nous dit qu'il l'accusait de beaucoup de choses. Mais Marc ne nous dit pas de quoi il s'agissait. Nous sommes cependant frappés par la manière dont une expression revient sans cesse dans la première partie de ce chapitre, le roi des Juifs. Versets 2, 9, 12, 18, 26. Luc nous rapporte expressément qu'il disait que Jésus défendait de donner le tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi. C'est ce qui semble être sous-entendu dans le bref récit de Marc, bien que ce ne soit pas d'une manière précise. De nouveau, devant Pilate, le Seigneur confesse qui il est. Soumet de dire s'il est le roi des Juifs, il répond simplement « Tu le dis », ce qui revient à dire « Oui ». Pour le reste, de nouveau il ne répond rien, parce qu'il n'y a rien à répondre aux accusations extravagantes des principaux sacrificateurs. Il vaut la peine de remarquer que Marc ne rapporte que deux paroles de notre Seigneur devant ses juges. Devant la hiérarchie juive, il confesse lui-même qu'il est le Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Devant le gouverneur romain, il confesse qu'il est le roi des Juifs. Aucun témoignage ne peut être retenu contre lui. Il est condamné à cause de ce qu'il est, et il ne peut se renier lui-même. De plus, Pilate était suffisamment averti pour discerner ce qu'il y avait à la racine de toutes ces accusations. Il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie, d'où sa vaine tentative pour amener la multitude à penser à Jésus quand il s'agit du prisonnier qu'on devait relâcher. L'influence des sacrificateurs sur le peuple est cependant trop forte pour lui et, par conséquent, voulant plaire à la foule, Pilate renie tout sens de la justice qu'il pourrait avoir. Il relâche Barabbas, rebelle et meurtrier, et ayant fait fouetter Jésus, il le leur livre pour être crucifié. La voix du peuple l'a emporté sur la meilleure appréciation des choses qu'a le représentant de César. En d'autres termes, à cette occasion, l'autocratie a abdiqué en faveur de la démocratie et c'est le vote populaire qui en a décidé. Un vieux proverbe latin dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Ce qui s'est passé à la crucifixion du Seigneur dément absolument ce proverbe. Ici, la voix du peuple est la voix du diable. Les versets 16 à 32 nous décrivent d'une manière très réaliste les terribles circonstances qui entourent la crucifixion. Toutes les classes de la société sont unies contre le Seigneur. Pilate l'a déjà fait fouetter. Les soldats romains se moquent de lui de manière aussi cruelle que méprisante. Les gens du commun, simples passants, l'invectivent. Les sacrificateurs se moquent de lui avec leur sarcasme. Les deux brigands crucifiés qui représentent les criminels, le rebut même de l'humanité, l'insultent. Qu'ils soient de noble extraction ou d'humble naissance, tous, juifs et gentils, sont impliqués. Et pourtant, en définitive, tous contribuent à accomplir les Écritures, quoi qu'ils le fassent sans aucun doute à leur insu. C'est particulièrement frappant dans le cas des soldats romains, des hommes qui ignoraient l'existence des Écritures. Le verset 28 relève que la crucifixion des brigands, de chaque côté, était l'accomplissement d'Ésaïe 53, verset 12. Mais ils ont fait beaucoup d'autres choses qui accomplissaient aussi la parole. Par exemple, son visage devait être défait plus que celui d'aucun homme, Ésaïe 52, verset 14. Et il y a eu un accomplissement de cela avec la couronne d'épines et les coups. Le juge d'Israël devait être frappé avec une verge sur la joue, d'après Michée 5, verset 1. C'est ce qu'ont fait les soldats, comme le montre le verset 19 de notre chapitre. Le verset 24 raconte comment ils ont accompli le verset 18 du psaume 22. Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre, dit le psaume 69, verset 21. Et c'est également ce qu'ont fait les soldats, bien que l'accomplissement de cette prophétie ne soit pas rapporté ici, mais dans Matthieu. Nous pensons que nous sommes fondés à dire qu'au moins 24 prophéties ont été accomplies dans cette journée de 24 heures où Jésus est mort. Tous les hommes à ce moment-là se présentent sous l'aspect le plus noir, et dans ces versets, nous ne lisons pas que Jésus ait dit quoi que ce soit. C'est exactement comme le prophète l'avait dit, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert sa bouche. C'est l'heure de l'homme et l'apogée de la puissance des ténèbres. La perfection du saint serviteur de l'Éternel se manifeste en ce qu'il souffre en silence tout ce qu'il endure de la main des hommes. Les souffrances que le Seigneur Jésus a endurées de la main des hommes ont été très grandes, et cependant cela devient relativement insignifiant si nous nous mettons à considérer ce qu'il a enduré de la main de Dieu quand il était la victime étant fait péché pour nous. Pourtant, tout ce sujet d'une importance tellement plus grande est condensé par Marc en deux versets, les versets 33 et 34, tandis que le récit qu'il fait de ce qui est de moindre importance comprend 52 versets, du verset 53 du chapitre 14 au verset 32 du chapitre 15. C'est que, bien sûr, ce qui est le moins important peut se décrire, tandis que ce qui est le plus important ne peut pas l'être. Les ténèbres qui descendent à midi cachent au regard de l'homme le décor même de cette scène. Tout ce qui peut être raconté d'un point de vue historique, c'est que, pendant 3 heures, Dieu a mis le silence de la nuit sur la terre et qu'il a ainsi rendu les yeux des hommes aveugles et qu'à la fin de ces heures, Jésus a poussé ce cri d'angoisse qui avait été écrit comme prophétie 1000 ans plus tôt, au verset 1 du psaume 22. Celui qui est saint et qui porte le péché est abandonné, car il faut que Dieu juge le péché et le bannisse irrévocablement de sa présence. Ce bannissement complet et éternel, c'est nous qui le méritions, et il tombera sur tous ceux qui meurent dans leur péché. Lui l'a pleinement enduré. Mais, comme il possédait la sainteté, l'éternité, l'infini de la déité dans sa plénitude, il a pu en sortir au terme de ces 3 heures. Cependant, ce cri sorti de sa bouche à ce moment-là montre qu'il en a ressenti toute l'horreur, et la mesure avec laquelle il pouvait tout ressentir était infinie. Ce qu'il a souffert de la main de l'homme ne doit pas être estimé comme peu de chose. Hébreux 12, verset 2 dit « Qui a enduré la croix, ayant méprisé la honte ». Mais il faut noter la différence entre la honte et la souffrance. Plus d'un homme physiquement courageux ressentira la honte plus que la souffrance. Le Seigneur a ressenti la souffrance, mais il a méprisé la honte dans la mesure où il était infiniment au-dessus, et il savait qu'il était, selon Ésaïe 49, verset 5, glorifié aux yeux de l'Éternel. Nous croyons que l'on peut dire qu'il n'a jamais été plus glorieux aux yeux de Dieu qu'au moment où il souffrait sous le jugement divin comme celui qui porte le péché. C'est le paradoxe de la sainteté et de l'amour divin. L'effet qu'a produit ce cri sur ceux qui sont là présents nous est donné au verset 35 et 36. On voit mal comment ils auraient vu une allusion à Élie dans les paroles de Jésus s'ils n'avaient pas été juifs. Mais alors quelle profonde ignorance ils montrent, en ne reconnaissant pas ce cri qui monte vers Dieu et qui se trouvait enchâssé dans leurs propres écritures. Ce qui concerne la mort même de Jésus est donné par Marc de la manière la plus brève. Il expire et remet son esprit entre les mains de Dieu immédiatement après avoir crié d'une forte voix. Ce qu'il a dit est rapporté dans Luc et dans Jean. Ici nous est simplement indiqué la manière dont il l'a dit. Il n'y a pas eu peu à peu affaiblissement des forces pour que ces dernières paroles ne soient plus qu'un faible chuchotement. L'instant d'avant, il crie d'une forte voix, l'instant d'après, il est mort. Sa mort a été surnaturelle, d'une façon si manifeste qu'elle impressionne grandement le centurion qui était de service et qui observait la scène. Quel qu'ait pu être dans son esprit le sens exact de ces paroles, il a dû au moins sentir qu'il était témoin de quelque chose de surnaturel. Nous souscrivons à ce qu'il a dit, et nous disons de la manière la plus absolue, certainement, cet homme était fils de Dieu. Témoignage est aussi rendu à la vérité de ces paroles par le fait que le voile du temple se déchire. Ce grand événement semble avoir eu lieu au moment même de la mort de Jésus. C'est la main divine qui le déchire, car une main humaine aurait été obligée de le déchirer depuis le bas jusqu'en haut. Tout le système minutieux des types institués en Israël concernant les sacrifices et le temple, tout, à l'avance, annonçait la mort de Christ, et lorsque cette mort est accomplie, la main divine déchire le voile du temple pour signifier que le temps des types a pris fin et que le chemin pour entrer dans le lieu très saint est révélé. En cas de besoin, Dieu a toujours en réserve un serviteur qui s'avancera pour accomplir sa volonté. Des pierres crieraient ou seraient dressées pour devenir des hommes si Dieu en avait besoin en cas de difficulté. Mais cela n'arrive jamais, car jamais Dieu ne se trouve en difficulté. Il a toujours un homme en réserve, et Joseph est cet homme à cette occasion. Ce disciple timide et secret est soudain rempli de courage et affronte Pilate hardiment. Il est l'homme qui est né dans ce monde pour accomplir en son temps la parole prophétique d'Ésaïe 53, verset 9, avec le riche dans sa mort. Et après qu'il l'a accompli, on n'entend plus parler du tout de lui. Il a manqué l'occasion de réaliser la communion avec Christ quand celui-ci était vivant, mais cette communion, il l'a réalisée quand Christ était mort. Voilà qui est remarquable, car c'est exactement le contraire de ce qu'ont fait les disciples. Ils s'étaient associés à Jésus pendant sa vie, et ils ont manqué misérablement quand il est mort. La défaite apparente de Jésus a eu pour effet d'enhardir Joseph. Cela a ravivé sa foi, comme s'embrasent soudain les braises d'un feu qui couve. Il attendait le royaume de Dieu, et nous pouvons être sûrs qu'au jour du royaume, la foi et les œuvres de Joseph ne seront pas oubliées par Dieu. Cette foi qu'il a est précisément celle dont nous avons besoin aujourd'hui. Une foi qui s'enflamme quand la défaite semble certaine. Ce qu'a fait Joseph a incidemment pour effet d'attirer l'attention de Pilate sur le caractère surnaturel de la mort de Christ. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Il l'a laissée de lui-même et au moment convenable, quand tout a été accompli. Pour les deux brigands, comme nous le savons, la mort a été beaucoup plus lente. L'agonie s'est prolongée encore pendant des heures et elle a dû être abrégée par des moyens cruels. Pilate s'étonne, mais après confirmation que Jésus était déjà mort, il cède à la requête de Joseph. Ainsi s'accomplit la volonté de Dieu, et à partir de ce moment-là, le corps saint du Seigneur est ôté des mains des incrédules. Ses mains, guidées par la foi et l'amour, lui rendent les derniers devoirs et le déposent dans le tombeau. Il y a aussi des femmes attachés au Seigneur, qui sont restés là comme témoins, alors que même les disciples ont disparu. Et elle voit où on l'a mis.